discuté en fin juin sur la question de la doctrine de l'Écriture. Nous avions vu cette question fondamentale relative à l'inspiration et à la révélation. D'abord la révélation, puis ensuite l'inspiration. Alors, il est évident que ce mécanisme de révélation et d'inspiration se joue essentiellement dans le domaine des écrits prophétiques. Et quand nous parlons d'écrits prophétiques, on entend évidemment les écrits des prophètes proprement dit, mais également un certain nombre de textes du Nouveau Testament. Maintenant, il y a dans l'Écriture sainte, s'il est vrai que la révélation prophétique y occupe une place prépondérante, il est clair qu'il n'y a pas seulement une révélation prophétique. Tout lecteur de la Bible, même à la suite d'une lecture superficielle, se rend très vite compte qu'à côté des écrits vraiment prophétiques, c'est-à-dire où il est question d'une révélation, il y a des écrits d'un tout autre type qui sont des écrits historiques. Et si la notion d'inspiration, au sens banal du terme, est relativement facile à appréhender en ce qui concerne les écrits prophétiques, souvent un certain nombre de gens se demandent comment l'inspiration peut-elle encore jouer au niveau des écrits historiques. Alors, quand nous parlons d'écrits historiques, il faut évidemment parler d'abord de tous les textes historiques. Donc, quand nous parlons d'écrits historiques, il faut évidemment y voir les passages historiques du Pentateuque, tout le livre de Josué et des Juges, les livres de Samuel, les livres des Rois, les livres des Chroniques, les Évangiles, en ce qui concerne le Nouveau Testament, et les Actes. Alors, comment y a-t-il inspiration au niveau de ces écrits? Nous laisserons de côté le Pentateuque, qui est en soi un autre problème, et nous parlerons plus exactement des autres écrits historiques. Tout d'abord, il y a au niveau de ces écrits un certain nombre de questions que nous pouvons nous poser. Tout d'abord, il nous faut remarquer que ces écrits tournent autour de 6 questions fondamentales. Ces questions, elles seraient les suivantes. Quoi ? Quel est le sujet dont il est question ? La deuxième question, ce serait d'où ? C'est-à-dire, quelle est l'origine des informations qui sont à la disposition de l'auteur. La troisième question, comment, c'est-à-dire comment ces informations lui sont-elles parvenues. La quatrième question serait celle-ci, pourquoi l'auteur insiste-t-il sur tel et tel détail et pas sur d'autres. Pourquoi passe-t-il sous silence des époques, des années entières de la vie de ces personnages? La cinquième question serait la question de la date, quand? Et enfin la dernière question, à qui ces écrits s'adressent-ils au départ? Quand nous aurons répondu à ces 6 questions, alors, nous verrons plus clair en ce qui concerne la question de l'inspiration de ces écrits-là. La première remarque que nous pouvons faire avant d'aborder successivement chacune de ces questions, c'est que l'histoire biblique, plus exactement l'historiographie biblique, comme on dit en langage un peu savant, ne traite pas de toute l'histoire du peuple d'Israël. Ne traite pas de toute l'histoire de l'Église, ne traite pas de toute la biographie de Jésus. On a souvent tenté d'écrire, à partir des évangiles, des biographies de Jésus. On y a aujourd'hui pratiquement renoncé. Parce qu'il y a trop, je dirais, de silence dans les évangiles sur des moments essentiels de la biographie de Jésus. Et non seulement de ce que l'on appelle les années cachées de Jésus, mais également de ce qui concerne le déroulement de son ministère. La chronologie, par exemple, du déroulement de son ministère est, à partir des données des évangiles, pratiquement impossible à reconstituer. Donc, l'historiographie biblique ne nous dit pas tout. En fait, l'historiographie biblique ne traite que de ce qui répond à son objet, à une intention profonde de l'auteur. Et là, nous pourrions introduire une septième question, précisément cette question-ci, à cause de quoi ? C'est-à-dire que l'auteur répond à la question à cause de quoi les choses sont aujourd'hui ce qu'elles sont. Pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix ? Pourquoi la ville de Jérusalem a-t-elle été détruite par les Babyloniens ? Pourquoi Akab est-il mort au combat dans la bataille de Ramoth-en-Gilead ? Pourquoi l'Église, l'Évangile, s'est-il répandu aux quatre coins du monde romain de l'époque ? Voilà, finalement, ce qui est l'objet essentiel de l'historiographie biblique. Expliquer la raison d'être des choses. La raison d'être de telle et telle situation. Pourquoi l'homme souffre-t-il ? Pourquoi l'homme meurt-il ? À cause de la chute d'Adam, etc. La Bible répond précisément aux questions fondamentales de l'homme. Pourquoi les choses sont-elles aujourd'hui, dans mon aujourd'hui à moi ? Pourquoi les choses sont-elles ce qu'elles sont ? Et tout ce qui ne répond pas directement à cette question-là est évacué par l'historiographie biblique. Et c'est dans cette perspective qu'il nous faut maintenant envisager les six questions que nous avons envisagées. D'abord, la première question, quoi ? Nous nous rendons compte très vite que la Bible privilégie dans le déroulement des événements historiques un certain nombre d'événements qui lui semblent importants et qu'elle passe sous silence un certain nombre d'autres événements. Il y a des événements que la Bible cite uniquement en passant, sans s'attarder, et qu'un historien moderne, ou qu'un historien tout court, aimerait bien voir détaillé. Et la Bible le laisse de côté. Elle laisse de côté parfois ces détails parce qu'ils sont connus. Elle les suppose connus du lecteur. Par exemple, à la fin de la biographie de Bien des Rois, nous trouvons une formule quasiment stéréotypée. Pour ce qui est du reste des actions de tel ou tel roi, cela n'est-il pas écrit dans les chroniques des rois de Juda et des rois d'Israël ? Donc, inutile de s'étendre sur le reste des actions de ce roi-là. On en a trop parlé, c'est écrit dans les chroniques. Si vous voulez en savoir plus, consultez ces fameuses chroniques. Bon, pour nous, évidemment, il n'en est plus question. Ces chroniques-là, elles ont disparu. Mais ça, c'est une manière aussi pour la Bible de dire, finalement, pour notre question essentielle, à cause de quoi ce n'est pas important le reste des actions de ce roi-là. Et le but de l'auteur n'est pas le but d'un historien, c'est le but, et nous allons voir dans quelques instants, à la fin de notre étude, c'est le but d'un prophète. Donc, il y a un choix, une sélection qui est faite dans les différents événements historiques sur lesquels l'auteur sacré se dispose, se propose de relater. Il y a ce qui est important aux yeux de Dieu et ce qui ne l'est pas dans ces événements-là. Il y a des choses qui ont marqué la conscience des hommes, la conscience des contemporains, mais qui en fait, aux yeux de Dieu, n'ont pas une importance réelle. Je prends un exemple. Celui d'Omri, le roi d'Israël qui a été le père d'Akab et dont la Bible nous parle en 8 versets, pas un plus. 8 versets qui nous disent quoi ? Qu'il fut le plus mauvais de tous les rois qui aient jamais vécu sur Israël. Qu'il fut celui qui irrita le plus l'Éternel par ses actes d'idolâtrie. Ensuite, qu'il acheta d'un certain Shemer la montagne de Samarie et qu'il y établit sa capitale. Qu'il maria son fils Akab avec une princesse tyrienne et qu'il fit plus pour les autres que pour irriter l'Éternel que tous les autres rois qui l'avaient précédé. Il régna tant et tant d'années, puis il se coucha avec ses pères et mourut. Quant au reste de ses actions, reportez-vous au livre des chroniques des rois d'Israël et des rois de Juda. 8 versets. Si nous n'avions que la Bible pour nous renseigner sur Omri, dirions voilà un roi absolument insignifiant. Or, quand nous lisons l'histoire profane, en particulier les annales des rois d'Assyrie, nous apprenons que Omri fut un des plus grands rois qui ait jamais régné sur Israël. C'est tellement vrai que des siècles plus tard, jusqu'à l'écroulement du royaume du Nord, Omri est cité comme le fondateur du royaume de Samarie, qui prend le nom dans les annales assyriennes, puis ensuite dans les annales babyloniennes, de Beth-Omri, la maison d'Omri, le royaume d'Omri. Même si ce n'est pas Omri qui l'a fondé, il avait été fondé beaucoup plus tôt par Jéroboam Ier, et même si sa dynastie, sa descendance a cessé de régner depuis des siècles sur Samarie. Mais il a tellement marqué son époque, il a tellement marqué ses contemporains, que pour tous, jusqu'à l'écroulement du royaume du Nord, le royaume du Nord reste le royaume d'Omri. Même chose en ce qui concerne son fils Akab. Quelques années plus tard, nous apprenons que le roi Shalmaneser IV, roi d'Assyrie, avait entrepris une vaste campagne militaire en direction de l'ouest, de la côte phénicienne, et puis ensuite de la côte d'Israël. Pour tenter de s'opposer à cette invasion brutale, les rois qui se trouvaient de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Euphrate, avaient tenté de créer une coalition pour bloquer l'avance du roi assyrien. Il y avait, nous disent les annales de Shalmaneser, 3 rois qui étaient à la tête de cette coalition. Hazael, roi d'Aram, c'est-à-dire de Syrie. Un roi qui se trouvait dans la région du Liban. Et Akab. Immédiatement après Hazael, Akab était celui qui a aligné le plus de chars, 900 chars. Et Shalmaneser est obligé de reconnaître implicitement que cette coalition lui a infligé une cuisante défaite. Donc, pour Akab, c'était une éclatante victoire. Eh bien, vous chercherez dans la Bible la trace de cette victoire. Une seule allusion à cette victoire qui a été le titre de gloire du règne d'Akab. Avoir réussi à vaincre la Syrie, la grande puissance militaire du moment. Eh bien, vous ne trouverez pas une seule allusion à cet événement dans la Bible. Et là, c'est tout à fait étonnant, parce qu'un historien profane aurait mis ça en relief. C'était ça, le grand fait de la vie d'Akab. Le grand fait du royaume, de son règne. Pour la Bible, pas un coup. Parce que ce n'est pas important. Par contre, dans la Bible, vous allez trouver souligné très fort un détail qu'effectivement un historien aurait, je dirais, pratiquement passé sous silence. L'épisode de la ville de Naboth. Incident mineur dans la vie de ce roi qui pour pouvoir s'emparer de la vigne d'un simple particulier qui se trouvait juste à côté de son palais, monte une machination et finalement pour le faire disparaître. Quoi de plus banal dans le comportement des rois de l'époque, certains, pas des rois aujourd'hui, mais enfin, ont tendance à faire un peu la même chose, mais enfin, pour dire que c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Et pour la Bible, si. Voilà un événement central dans la vie d'Akab, parce qu'il explique pourquoi Akab va mourir brutalement, frappé à Ramoth-en-Gilead d'une flèche tirée au hasard, et parce qu'il explique pourquoi sa dynastie ne survivra pas à la révolte de Jéhu. Parce que cet incident mineur pour un historien du meurtre de Naboth est aux yeux de Dieu la goutte qui a fait déborder le vase et qui fait que la colère de Dieu contre Akab devient irrémédiable. Alors on se rend compte que tout de suite, il y a une perspective fondamentalement différente de celle qu'il y a dans une perspective tout simplement autre, profane, disons. Deuxième question, d'où ? Il y a donc là, je dirais, un choix déroutant qui est fait. Alors, d'où ? D'où l'historien sacré a-t-il tiré ces informations ? On a parfois prétendu dans les milieux évangéliques qu'il tirait ces informations d'une révélation. La Bible elle-même n'affirme rien sans rien. Au contraire, il est question d'archives, il est question de sources auxquelles l'historien sacré a puisé. Luc, par exemple, quand il écrit son évangile et qu'il le dédie à son ami protecteur Théophile, déclare honnêtement qu'avant d'écrire cet évangile, il a fait des recherches exactes. C'est-à-dire, il a fait un véritable travail d'historien au sens moderne du terme. Il a consulté les archives, il a interrogé des témoins, il a confronté les témoignages, et à partir de ce qu'il a ainsi obtenu, du matériel qu'il a ainsi rassemblé, il a écrit son évangile. Donc, il y a eu recours à des sources, à des archives. Il y a, dans l'historiographie biblique, des récits traditionnels qui sont pratiquement intégrés tels quels, des poèmes, des prophéties et parfois le propre souvenir, le souvenir personnel de l'historien. Si nous prenons le cas de Luc notamment, dans la deuxième partie du livre des Actes, ce sont ses propres souvenirs qu'il évoque, lui-même ayant été un acteur des événements qu'il retrace. Alors ici se pose précisément le problème de la fidélité de ces sources. L'historien sacré, s'il a employé pour ce faire les mêmes méthodes que l'historien profane, n'a-t-il pas parfois été abusé par ces sources ? Et là déjà, nous pouvons dire qu'il y a un premier miracle d'inspiration. La Bible nous affirme que, et Luc le rappelle, que l'historien a été conduit par la grâce de Dieu à n'avoir recours qu'à des sources, à des témoignages absolument sûrs et absolument fiables. Et c'est justement le discernement des ministères apostoliques qui a permis justement de reconnaître que les sources qui avaient été utilisées pour écrire, par exemple, les évangiles ou les actes, étaient des documents absolument fiables. Que les témoignages recueillis ont été des témoignages authentiques et véridiques. Et l'on sait, nous aurons l'occasion de le voir dans une autre de ces études, qu'un certain nombre d'écrits ont justement été écartés pour cette raison même que l'on ne pouvait pas se fier à l'authenticité et au caractère véridique des sources auxquelles il faisait appel. ce sont les évangiles, les actes, et ensuite, dans un autre domaine, les épîtres apocryphes. On peut penser que pour ce qui concerne les écrits de l'Ancien Testament, notamment pendant la période de l'exil, le même critère, le même travail de discernement conduit par le Saint-Esprit a été opéré par ceux qui ont rassemblé ces documents pour former la Bible telle que nous la possédons aujourd'hui. Alors, nous nous rendons compte tout de suite que, alors que dans les écrits prophétiques, la source de ce qui était communiqué était la révélation de Dieu, le chazon, en ce qui concerne les écrits historiques, les sources écrites, les sources profanes, les témoignages, les mémoires tiennent lieu de cette révélation-là. Et là, nous allons voir justement comment joue un autre aspect de la chose, justement le problème de la révélation. Troisième question, comment ? Par quel moyen l'information a-t-elle été communiquée jusqu'aux hommes qui l'ont reçue ? Comment ont été rassemblées les différentes sources ? Quelle est la perspective de l'historien sacré ? S'agit-il de sa vision à lui de l'histoire ? S'agit-il de la vision de l'histoire qu'il partage avec ses contemporains ? S'agit-il d'une vision globale de l'histoire que peuvent avoir ceux qui l'entourent ? Ou bien s'agit-il d'autre chose ? Quels sont ses critères d'appréciation et quels sont ses critères de jugement ? Car il est clair, quand on lit l'Écriture sainte, qu'il n'y a pas tout simplement une relation sèche des faits, mais il y a une prise de position. Nous pourrions dire qu'il s'agit d'une histoire engagée. Il s'agit d'une histoire dans laquelle l'historien sacré essaye de discerner une signification, un sens. Et là apparaît déjà une notion étonnamment moderne, celle que l'histoire a un sens. Ça, c'est la grande tarte à la crème des historiens modernes, depuis Marx en particulier, celle du sens de l'histoire. Eh bien, la Bible, des centaines et des centaines d'années avant Marx, avait déjà affirmé que l'histoire n'était pas simplement le résultat d'un certain nombre de causes et d'effets qui étaient le fruit du hasard, mais qu'il y avait un sens, il y avait un but vers lequel l'histoire était orientée, et que par conséquent les événements particuliers de cette histoire avaient chacun d'entre eux une signification. Et il est clair que le but des historiens sacrés est de comprendre la signification de ces événements et ensuite de discerner quel est le sens global de cette histoire. Quatrième question, pourquoi ? Ça, c'est la prolongation de la question précédente. Dans quel but ces récits ont-ils été rassemblés ? Quelle est la signification des récits des patriarches ? Est-ce qu'il y a là le désir de mettre en évidence la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu qui intervient pour délivrer ses enfants ? Comme ce sera le cas par exemple dans les récits relatifs à la sortie d'Égypte ? Ou bien est-ce répondre à une question que les contemporains se posent ? Et enfin, dernière question. Deux dernières questions, et qui ? En fait, l'histoire biblique, c'est une rencontre de générations. La succession des générations dans la Bible a une importance extraordinaire. Et souvent revient précisément cette expression « voici les générations » et suivent de longues listes de généalogies qui souvent paraissent fastidieuses aux lecteurs modernes, mais qui sont extrêmement importantes pour l'auteur biblique, car précisément, les événements qu'il va relater ne sont pas des événements qui sont comme ça, surgissent brusquement, mais ce sont des événements qui s'insèrent dans tout un ensemble. Ce sont des événements qui s'insèrent dans une trame qui part du commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, et qui va jusqu'à la même finale de l'Apocalypse, quand Dieu sera tout en tous. Et précisément, l'histoire dans la vision biblique, c'est la rencontre de ces générations. La rencontre des générations qui dialoguent. La génération présente interroge les générations qui l'ont précédée pour comprendre la sagesse. C'est-à-dire finalement la manière mystérieuse dont Dieu conduit les choses, afin d'en tirer des leçons pour aujourd'hui et des leçons pour demain. Afin que la génération présente sache comment il convient de se conduire et comment il convient de marcher devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la révélation biblique est une révélation historique. C'est pourquoi l'histoire dans la Bible occupe une place essentielle. Parce que l'histoire, nous allons le voir dans quelques instants, c'est en quelque sorte le laboratoire où Dieu teste les hommes. Et il s'agit de tirer les leçons d'histoire. Non pas d'une histoire qui serait simplement une histoire profane, ce qui en soi déjà serait source de leçons, mais d'une histoire dont Dieu lui-même va tirer la leçon. Alors ça nous ramène justement à cette question des sources dont nous parlons il y a un instant. Les sources, elles sont souvent évoquées. Je prends quelques exemples. La Bible cite, par exemple, en 2 Samuel 1, verset 18, 1 Roi 8, verset 13, le livre du juste. C'est-à-dire un certain nombre de livres qui ne sont pas des livres inspirés, où étaient relatés un certain nombre d'événements historiques et auxquels l'historien sacré s'est référé pour écrire lui-même son récit. C'est ainsi que nous trouvons aussi l'allusion au livre des Chroniques de Salomon, 1 Roi 11, verset 51, 2 Chroniques 24, verset 24. En 1 Chronique 29, verset 26 et 30, il est question du livre de Nathan, le prophète. Le livre de Gad, le prophète. Deux hommes qui avaient gardé la chronique du règne de David, auxquels ils ont été associés. Et nous trouvons dans les écrits historiques de la Bible, quatre types de sources. Premièrement, les chroniques, comme je le disais il y a un instant, de la vie des rois, des scribes, qui étaient gardés dans les palais, des listes et des documents divers qui, au contraire, étaient de nature religieuse et qui étaient gardés dans les temples par les prêtres, par exemple, tout ce qui concerne la description du tabernacle, tout ce qui concerne la description de l'arche sacrée, de la table, etc., tous les instruments qui servent au culte, ensuite le plan du temple de Salomon, etc. Ensuite, nous trouvons des poèmes qui ont été gardés aussi parce qu'ils ont été chantés, je dirais, dans des temps forts de la vie du peuple, des temps de crise, par exemple le cantique de Déborah, le cantique de la mer au moment de la traversée de la mer Rouge, le cantique de l'arc au moment de la mort de Saül et de Jonathan, que David avait demandé que l'on apprenne partout, que l'on chante partout, etc. Et enfin, les écrits proprement prophétiques, qui trouvent leur place dans l'historiographie biblique, comme par exemple en 2 Samuel 20, verset 24, 1 Roi 11, verset 3, etc. Donc voilà les principales sources. Nous savons également qu'un certain nombre de scribes ont contribué à ces sources-là. Leurs noms, pour certains d'entre eux, nous sont connus. Nous connaissons ainsi le nom du scribe, d'un des scribes du roi Ézéchias, par exemple, de Roi 18, verset 8. Le scribe de Josias nous est également connu par son nom, de Roi 22, verset 3. Et les rois avaient d'ailleurs des scribes qui étaient attachés à leur personne d'une manière directe. C'était une véritable charge héréditaire. Achab, par exemple, avait aussi un scribe, hein, Roi 21, verset 8. J'ai eu, de Roi 6, verset 21. Et ces scribes relataient toutes les actions du roi, les premières et les dernières, comme le dit le livre des rois. Et cela pour que l'on s'en souvienne, Malachie 3, verset 16. Ensuite, il y avait, disais-je, les archives du temple. Ces archives sont citées par exemple en 1 Chronique 19, verset 8, 2 Rois 22, verset 28, au moment où, lors de la réparation du temple, on trouve le livre de la loi de Dieu. La lecture de ce livre, eh bien, provoque un véritable réveil en Israël. La liste des trésors des rois, de Samuel 4, verset 18 à 19. Tous ces trésors que David avait accumulés pour que Salomon, son fils, puisse construire le temple. Les écrits prophétiques. Par exemple, à l'époque de David, nous savons qu'il y avait trois prophètes qui ont été directement liés à la rédaction de l'histoire du règne. Nathan, Gad, le voyant, et Achia de Shiloh, qui a prophétisé la division des deux royaumes. Plus tard, nous entendons parler d'autres prophètes qui interviennent directement dans la vie des différents rois, par exemple des rois comme Josaphat, des rois comme Avia, etc. Il est question par exemple d'Ido le voyant, Shimei le voyant, de Chroniques 12, verset 15, et de Chroniques 13, verset 22. Nous savons par exemple qu'Élie lui-même, Élie le prophète, a rédigé une lettre qui a été envoyée à l'un des rois, de Chroniques 20, verset 34. Et enfin, il est question dans les livres historiques de l'intervention d'Ésaïe le prophète, qui par ailleurs, lui, aura un livre, et qu'il aura une écrit lui-même, qui sera d'un tout autre ordre, puisque ce sera un livre prophétique, de Chroniques 26, verset 22. Enfin, la fin du livre de Jérémie est entièrement historique. Et nous donne des informations que les autres livres ne nous donnent pas sur la fin du royaume de Juda. Et ceci nous amène à une première constatation, c'est que l'historiographie biblique est liée directement au prophétisme. Et là, l'examen rapide de ces sources nous montre à quel point les prophètes ont une part importante dans la rédaction de l'histoire biblique. En fait, on peut dire qu'ils sont les principaux artisans, les principaux auteurs de l'histoire biblique. Ce n'est pas un hasard. Car précisément, nous disions il y a un instant, l'histoire pour la Bible a pour but de révéler ce qu'est l'œuvre de Dieu. Ésaïe 5, verset 12. Les prophètes sont ceux qui se tiennent à l'écoute de Dieu, pour comprendre ce que Dieu fait pour les hommes, pour comprendre quelle est l'action de Dieu dans l'histoire. Et j'emploierai un mot qui était utilisé au Moyen-Âge, et donc en vieux français, qui a aujourd'hui un sens tout différent, la geste de Dieu. Dans le même sens que l'on parlait au Moyen-Âge de la geste de Roland. C'est-à-dire l'action de Dieu, l'action grandiose de Dieu dans l'histoire des hommes. L'histoire, c'est une école à laquelle Dieu soumet l'homme. L'homme est l'apprenti et Dieu est le maître. Deutéronome 8, verset 5. Et les prophètes scrutent l'histoire, les événements qui se déroulent de leur temps pour, à l'écoute de Dieu, voir comment Dieu, comprendre comment Dieu voit ces événements-là. Et mettre en évidence le secret de Dieu caché dans l'histoire. Amos 3, verset 7. Le Seigneur Dieu, dit Amos, ne fait rien sans d'abord avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les prophètes sont donc des hommes qui connaissent, qui discernent le sens de l'histoire, c'est-à-dire la manière dont Dieu conduit l'histoire. Les prophètes sont ceux qui, à la lumière de cette révélation-là, comprennent les leçons que Dieu veut donner aux hommes au travers de l'histoire. Et ce faisant, les prophètes ont une révélation sur le sens de l'histoire. Et là, nous retrouvons justement la notion de révélation dont nous avons parlé. Nous retrouvons finalement le même phénomène que dans l'inspiration directement prophétique. Les écrits historiques sont aussi des écrits qui sont l'objet d'une révélation. non pas d'une révélation immédiate et directe, comme c'est le cas par exemple pour les écrits prophétiques, mais à partir des sources qui étaient à leur disposition, à partir des sources profanes, les hommes inspirés, les prophètes, ont reçu une révélation sur le sens de l'histoire, sur la manière dont vous voyez ces événements. Et ils ont écrit ces récits de telle manière que le lecteur puisse justement lui-même aussi comprendre le secret de Dieu. Et là, c'est la raison pour laquelle les prophètes écrivent les premières et les dernières actions des rois. La vie est une épreuve à laquelle Dieu soumet l'homme. La vie des rois en particulier, la vie des grands personnages, la vie des prophètes, des apôtres, de Jésus bien sûr, sont l'objet des investigations prophétiques. Pour reprendre l'expression que nous trouvons dans la première épître de Pierre, les prophètes qui ont prophétisé touchant ce salut ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Il y a donc des recherches et des investigations prophétiques sur le salut de Dieu caché dans l'histoire, afin que la révélation de Dieu leur permette de comprendre le déroulement et la marche de ce salut dans l'histoire, depuis les premières aurores de l'humanité où Dieu fait la promesse d'envoyer ce salut, jusqu'à son émergence dans le peuple d'Israël, et finalement son apparition dans les derniers temps à la personne de Jésus-Christ, son expansion dans le monde entier par le développement de l'Église et sa manifestation au dernier jour, au moment de la parousie. Et précisément, il y a là une révélation totale et complète. Une révélation qui n'est pas aussi nette, aussi visible dans les écrits prophétiques, mais qui n'en est pas moins réelle. Et c'est en cela que nous pouvons parler des écrits prophétiques, des écrits historiques de la Bible, comme étant aussi l'objet d'une révélation. Autre question sur laquelle il faut revenir, c'est justement la manière dont ces réalités sont communiquées. C'est qu'il y a là, dans la révélation dont les prophètes sont l'objet, d'une vision tout à fait particulière de l'histoire. Encore une fois, cela explique pourquoi les prophètes ont choisi, dans les sources qui étaient à leur disposition, de souligner tel fait, tel événement et pas d'autre. Pourquoi les prophètes ont choisi de souligner l'incident mineur de la vigne de Naboth dans la vie d'Akab, et qu'ils ont délaissé de côté complètement l'histoire de la bataille de Karkar et de la victoire d'Akab contre les Assyriens. Pourquoi les auteurs inspirés laissent totalement de côté les 30 années de la vie de Jésus à Nazareth? Et pourquoi ils vont souligner un certain nombre d'incidents mineurs, tels que les noces de Cana, telle que la guérison de tel aveugle et non pas de tel autre? Jean, par exemple, à la fin de son évangile, rappelle que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles et dit beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Parce que finalement, eh bien, si l'on se mettait à écrire tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, eh bien, tous les livres qu'on pourrait écrire ne pourraient pas contenir ces choses. Alors, j'en dis, il a fallu que nous fassions un choix. Mais ce choix n'est pas un choix qui a été arbitraire. Ce choix est un choix conduit par Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu. Parmi peut-être les dizaines de guérisons d'aveugles que Jésus a accomplies, voire les centaines, ou même peut-être des milliers, l'Esprit Saint a conduit Jean à privilégier la guérison de Bartimée. Pourquoi ? Parce qu'il y a au travers de cette guérison-là, d'abord, le résumé de toutes les autres guérisons d'aveugles que Jésus a pu accomplir, et deuxièmement, parce qu'il y a un secret de Dieu, une leçon que le Saint-Esprit veut imprimer sur les cœurs. Non seulement cet homme a été guéri physiquement, mais la guérison physique de cet homme est l'image de la guérison spirituelle, de la cécité spirituelle de tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et l'auteur sacré a discerné là, dans une révélation du Saint-Esprit, la correspondance de ce signe, la signification profonde de ce signe, qu'il expose à ceux qui vont lire son livre. Alors il y a une révélation. D'abord, qui les conduit à discerner dans leur source ce qui est vrai. Et Jean, précisément, dans son évangile, insiste sur ce témoignage de vérité. Il termine aussi son évangile en disant, eh bien, c'est ce disciple qui a été témoin de ces choses qui les atteste. Et nous savons que son témoignage est vrai. Le Saint-Esprit a attesté dans son cœur que tout ce qu'il relatait était vrai. Mais non seulement cela, mais la révélation de l'Esprit a conduit les historiens sacrés à comprendre la révélation de Dieu cachée dans ces événements, à en dégager la signification profonde. Et ensuite, l'Esprit Saint les a conduits à relater ces choses, à les écrire, comme Dieu voulait qu'elles soient écrites, jusque dans les moindres détails. Et c'est là qu'intervient l'inspiration, justement. Alors, bien entendu, arrivé à ce stade, il y a immédiatement une objection. Oui, mais précisément. Lorsque les mêmes événements sont relatés, dans, par exemple, les quatre évangiles, lorsque les mêmes événements sont relatés, par exemple, dans les livres des rois, dans les livres des chroniques, les détails changent. Par exemple, le brave aveugle dont nous parlons il y a un instant, dans un des évangiles, il avait un manteau, dans l'autre, il n'en avait pas. Dans le récit de la multiplication des pains, Jésus fait asseoir dans un évangile les gens sur l'herbe, et dans un autre évangile, il n'y a pas d'herbe. Alors, donc, c'est que l'inspiration n'est pas si totale que cela. Justement, il y a là précisément quelque chose de très important. C'est que la parole de Dieu, d'abord, il peut y avoir, une première remarque que je fais à ce niveau-là, c'est qu'il peut y avoir des erreurs de copiste sur ces détails qui sont finalement des détails secondaires. Par exemple, entre les rois, les livres des rois et les livres des chroniques, souvent, ce qui change, les détails qui changent, ce sont les nombres. Il y avait tant de guerriers du côté de David dans le livre des rois, il y en a un nombre différent dans le livre des chroniques, ou des choses comme cela. Bon. Alors, très souvent à ce niveau-là, ce sont des problèmes de copistes. Bien entendu, en coupant un nombre, ceux qui travaillent sur les nombres savent que c'est très difficile, c'est très facile de se tromper en recopiant des nombres. Alors, bon, ben là, de toute façon, après tout, que David est trucidé, quelques milliers d'hommes en moins, quelques milliers d'hommes en plus, en fin de compte, pour nous, ça n'a pas grande importance. Pour ceux qui ont été trucidés, ça en avait, bien sûr. Mais pour nous, finalement, ça n'a pas tellement grande importance. Et que les copistes se soient trompés à ce niveau-là, finalement, ça n'enlève rien sur le plan de la leçon que le Seigneur veut nous donner. De toute façon, il y en avait beaucoup, c'est ça qu'on a besoin de savoir. Maintenant, pour les questions relatives aux évangiles, eh bien, je crois que ce qui est à souligner, c'est que, précisément, ce qui est important pour l'auteur sacré, ce n'est pas justement de s'arrêter à des détails secondaires comme cela. Or, précisément, l'homme charnel, le lecteur de la Bible, est un homme aussi qui a besoin d'être saisi par l'Esprit de Dieu. On peut lire la Bible de manière, on peut lire la Bible justement en historien, en critique, en homme profane, et à ce moment-là, on va s'achoper sur un certain nombre de réalités qui sont là, voulues par Dieu précisément, comme le disait l'apôtre Pierre, pour que les incroyants s'achoppent, trouvent une pierre d'achoppement. Ce que demandait l'apôtre Paul pour ses lecteurs, pour qu'en lisant la Bible, eh bien, il nous soit donné, nous aussi, de vibrer à l'unisson, en quelque sorte, de ceux qui l'ont écrite, afin à notre tour de discerner le secret de Dieu dans l'histoire, dans les événements qui nous sont rapportés, et en dernier ressort, à pouvoir les appliquer à notre propre vie. Et c'est pourquoi l'histoire biblique, encore une fois, a une telle importance dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible insiste tellement sur la nécessité de se situer dans l'histoire. Les religions païennes ne sont pas des religions historiques. La religion judéo-chrétienne est la seule qui soit une religion historique. Les religions païennes, le bouddhisme, les religions de l'Inde, les religions antiques, bien entendu, gréco-latines ou autres, égyptiennes, tout ce qu'on voudra, sont des religions mythiques. C'est-à-dire qu'elles sont basées sur des faits qui n'ont rien à voir avec la vie quotidienne des hommes, mais qui sont relatifs aux dieux. Tel dieu, par exemple, s'est battu avec tel autre dieu, l'a trucidé, à partir de son sang a créé la terre, et puis à partir de son, je sais pas moi, de son cuir chevelu a créé les montagnes, etc. Bon, nous sommes ici dans le domaine du mythe, pas de l'histoire. Et les religions païennes ne prétendent pas être historiques. Par contre, la Bible a ceci de différent de toutes ces religions-là, c'est qu'il est question d'un Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes, d'un Dieu qui descend dans l'histoire des hommes, d'un Dieu qui va descendre pour la conduire, cette histoire des hommes. Une histoire qui a un commencement, que l'on peut dater avec précision, pas nous, mais Dieu, mais en tout cas qui est un commencement précis, et ce n'est pas un hasard si la Bible commence par cette expression « au commencement », et qui un jour aura une fin. Cette fin vers laquelle Dieu conduit justement l'histoire des hommes. Qu'il conduit comme un accomplissement de ce qui était en germe au commencement, et qui est comme une semence qui mûrit avec le temps dans l'histoire des hommes. Jésus a caractérisé cela dans une parabole, celle du grain de sève, la plus petite de toutes les semences, qui était jetée comme ça dans le monde, et puis qui gemme, jusqu'à être un grand arbre qui remplit toute la terre. Et au dernier jour, lorsque cette plante sera arrivée à maturité, alors on comprendra ce qu'était l'œuvre de Dieu. Et alors Dieu sera glorifié, c'est-à-dire que sa sagesse, son plan, seront rendus manifestes aux yeux de tous les hommes. Alors, ce sera une fin qui ne sera pas un arrêt, mais au contraire une plénitude, un accomplissement. Et dans ce sens-là, l'histoire des hommes, l'histoire dans la conception biblique, est une apocalypse, au sens profond du terme, c'est-à-dire un dévoilement, une révélation. Il s'agit d'ôter un voile. L'homme subit les événements de son histoire et subit les événements du monde sans les comprendre. Parce qu'il y a un voile qui recouvre ces événements-là. Il les subit en essayant de comprendre, mais il n'y parvient pas. Et la révélation biblique enlève le voile et lui permet de comprendre quelle est l'œuvre de Dieu dans l'histoire des hommes et dans son histoire à lui, dans sa vie personnelle. Et c'est alors que l'histoire des révélations, Apocalypse, aussi dans ce sens qu'elle est située parfaitement dans le temps. Et c'est ce qui fait la caractéristique de la révélation biblique. Une révélation dans le temps, d'où la notion aussi importante de temps dans la Bible. La notion si importante de l'attente et de l'espérance, la notion si importante du souvenir, du souviens-toi qui revient sans cesse, la nécessité pour l'homme de se situer constamment dans le temps, de savoir regarder en arrière vers les commencements, pour pouvoir regarder ensuite vers l'avenir, vers les accomplissements et vers l'espérance. Et la Bible, la révélation biblique tout entière, apparaît comme cette boussole, si j'ose dire, qui permet à l'homme de se situer dans cette ligne du temps. Non pas encore dans une étude qui serait simplement l'étude d'une sagesse humaine, mais dans une révélation de Dieu qui lui permet d'être à l'unisson avec les hommes qui, dans les générations précédentes, ont fait aussi de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et alors intervient là une véritable communion entre les générations qui sont déjà dans la gloire et celles qui sont sur la terre. Et finalement, leur permet de vivre dans une continuité, dans cette longue chaîne des générations, dans cette longue chaîne des toldot qu'on trouve évoquées dans les généalogies qui jalonnent l'histoire biblique, et finalement qui culminent lorsque, au moment de la parousie, eh bien, toutes ces générations se feront rassembler devant le trône pour que le bilan global de l'histoire des hommes soit alors fait, tiré par le Seigneur lui-même. Et en cela, l'histoire est le lieu privilégié de où s'exerce la révélation de Dieu. Il n'est donc pas étonnant que l'histoire soit réellement le point central, l'objet de la révélation biblique. Voilà en gros ce que l'on pouvait dire justement sur les livres historiques, l'inspiration des écrits historiques.